السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
Je viens de vous présenter deux versets. Le premier est tiré de la sourate Al-Qasas, c'est le verset 84. Et le deuxième verset est le verset 15 de la sourate Al-Naml. La traduction du premier verset est comme suit: ceci est la demeure de l'au-delà, nous l'accordons à ceux qui ne désirent ni la gloire sur la terre et qui ne désirent pas non plus la corruption, et la fin est pour les vertueux. La traduction du deuxième verset est: et ils rejetèrent injustement et avec arrogance alors que leur âme en était convaincu, vois combien mauvaise était la fin de ceux qui avaient agi avec corruption. Vertu et vice, orgueil et humilité, la paix, l'amour, trouble et agitation, obéissance et rébellion, et le bien et le mal, tout cela existe partout. Le bien nous lie avec Dieu Ar-Rahman. Le bien est le signe de ceux qui se lient avec Dieu. Et le mal nous fait connaître ceux qui sont tombés dans le giron de Satan. Ce sont deux pôles opposés. Satan empêche les hommes d'accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préconisées et il encourage à faire le mal, à commettre ces actions que Dieu a interdites. La désobéissance est une des qualités de Satan. Dieu déclare à ce sujet: Inna shaytana kana lirahmani asiya. Assurément, Satan a été désobéissant envers Dieu. Et quant à ceux qui suivent Satan, ils tomberont certainement sous le coup de la colère de Dieu. Dans ces deux versets que je viens de vous présenter, on a évoqué deux types de personnes. Il y a ceux qui évitent le mal et les agitations. Ce sont les serviteurs de Rahman. Il y a ceux qui causent des troubles, des personnes qui commettent des exactions contre les autres, des personnes qui sont orgueilleuses. Ce sont les suppôts de Satan. Et selon la pratique de Dieu, ces personnes auront une fin ignoble. Je vais parler à propos de notre pays, le Pakistan. Il y a devant moi une majorité de personnes d'origine pakistanaise, et dans le monde, ce sont en majorité des Pakistanais qui m'écoutent. Je disais à propos du Pakistan que la majorité de ses habitants sont musulmans. Aujourd'hui, ce pays est tombé entre les mains de telles personnes qui n'ont aucun lien, même de loin, avec ces commandements de Dieu. Et maintenant, dans ce pays, les actions qui ont été condamnées par Dieu sont monnaie courante. Il y a aujourd'hui un groupe de personnes qui a asservi les politiques et qui a asservi aussi l'administration civile. Et nous en voyons le résultat quotidiennement dans la forme des attentats et d'autres atrocités qui sont commis dans ce pays. L'on doit dire que tout le système politique, toute l'administration civile baigne dans ces atrocités. Depuis la création du Pakistan jusqu'à présent, tous les califes de la communauté Ahmadiyya ont fait comprendre aux politiques et à la masse qu'ils doivent éviter la compagnie de ces personnes qui veulent conduire le pays vers l'extrémisme religieux. La masse, en raison de son ignorance, en raison de son innocence et de son amour pour l'islam, est tombée entre les mains des extrémistes religieux. Et en raison de leur pauvreté, de leur dénuement, la majorité de ces pauvres n'arrivent même pas à réfléchir. Et par intérêt, les politiciens sont en train de faire bon ménage avec les soi-disant religieux où ils leur ont donné une telle liberté que les politiciens pensent qu'ils n'auront pas de succès sans le soutien de ces soi-disant religieux. Chaque parti politique pense que sans le soutien de ces soi-disant religieux, ils n'auront pas de succès. Consciemment et inconsciemment, en donnant trop d'importance à ces soi-disant protecteurs de l'islam, on a instauré l'anarchie au Pakistan. Et quotidiennement, cette situation est en train de s'empirer. L'administration civile ne peut rien faire. Et la situation s'est dégradée à tel point que les Rangers, qu'on utilisait dans le passé pour rétablir la paix et l'ordre, et l'armée non plus ne peuvent rien faire face à ces terroristes, des terroristes qui possèdent des armes plus sophistiquées qu'eux. Face à cette situation, c'est le cœur de l'Ahmadiyya qui souffre le plus, car ce pays, nous l'avons bâti en sacrifiant des milliers de vies. Ce pays, maintenant, a été réduit en 1000 morceaux par ces égoïstes, ces personnes qui sont en train de commettre ces atrocités au nom de l'islam et au nom du prophète de Dieu. C'est vrai que par des moyens matériels, aucun Ahmadi ne pourra rien faire pour sauver ce pays. Aucun Ahmadi ne pourra libérer ce pays du joug de ses tyrans. Mais l'amour pour la patrie anime tout Ahmadi pakistanais. Et cet amour pour la patrie requiert qu'il doit prier pour son pays. Tout Ahmadi d'origine pakistanaise doit prier pour sa patrie, même si ses concitoyens, ses soi-disant défenseurs de la patrie, les accusent d'être les ennemis du pays. Ils peuvent nous accuser d'être les ennemis du pays, ils peuvent commettre toutes les atrocités qu'ils veulent à notre encontre. Par amour pour notre patrie, nous allons continuer à prier pour ce pays. Et s'il y a quelque chose qui pourra sauver ce pays de cette situation périlleuse, ce sera la prière des Ahmadis. Le ton de la communauté internationale est en train de se durcir de jour en jour contre le Pakistan, et à l'intérieur du pays, le terrorisme, la pauvreté, l'usurpation des biens du peuple, toutes ces actions sont en train d'affaiblir le pays. L'action de ces groupuscules extrémistes reflète-t-elle l'amour pour la patrie? Au Pakistan, les Ahmadis sont les citoyens les plus opprimés. Des citoyens à qui on a usurpé tous les droits. En tant qu'Ahmadi, nous n'avons rien à faire avec la politique. C'est là l'ignorance de ces politiciens qui pensent que puisque la communauté Ahmadiyya est très bien organisée, c'est pour cette raison qu'elle veut prendre le pouvoir. En tant qu'Ahmadi, nous ne sommes pas intéressés par les affaires de l'État pakistanais, tout comme nous ne sommes pas intéressés par les affaires d'aucun autre État au monde. Certes, en tant que citoyens d'un pays, nous éprouvons de l'amour pour ce pays et nous sommes loyaux envers ce pays. Et tout Ahmadi désire que son pays se démarque des autres dans le monde. Et il fait aussi des efforts en ce sens. Et il prie aussi en ce sens. C'est ainsi que l'on doit agir. Et tout Ahmadi, à titre individuel, peut participer dans la vie politique de son pays. Il peut être membre d'une parti politique afin de participer dans les affaires de son pays. Dans plusieurs pays du monde, il y a des Ahmadis qui sont membres du parti au pouvoir et qui sont en train d'agir dans l'avantage du pays. Il y a aussi ceux qui sont dans l'opposition et qui sont en train de jouer leur rôle pour le progrès du pays. En tant qu'individu, en tant que citoyen, tout Ahmadi est intéressé par les affaires de son pays et il peut être intéressé par ses affaires. Mais la communauté Ahmadiyya en tant que communauté divine ou le califat de la communauté Ahmadiyya n'est pas intéressé à prendre le pouvoir et tel n'est pas non plus notre but. Le Messie promis, alayhi salam, est venu nous montrer une voie et celle-ci n'est pas pour que nous puissions usurper le pouvoir d'un État quelconque. Il est venu nous offrir le royaume spirituel et notre objectif, c'est d'avoir la couronne du plaisir de Dieu. La Jamaat Ahmadiyya s'est toujours présentée quand le gouvernement a demandé des conseils ou quand le gouvernement a demandé des sacrifices de sa part pour l'intérêt de la nation. En dépit de toutes les atrocités qui sont commises contre les Ahmadis individuellement et collectivement au Pakistan, lorsque nous constatons que nos concitoyens sont en train de souffrir, lorsque nous constatons que le pays tout entier est en train de souffrir, nous souffrons nous aussi. Cette inquiétude, nous ne la ressentons pas pour les politiques, mais nous la ressentons pour le salut du pays. Nous la ressentons en raison de la population qui est en train de souffrir. Autant que possible, nous faisons des efforts pour que ce pays puisse sortir de ses difficultés. Cette action est en accord au précepte qu'a préconisé notre maître Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette action de notre part résulte du fait que nous essayons de suivre l'exemple laissé par le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous a demandé de le prendre pour référence. Il a déclaré que c'est lui mon bien-aimé et il vous incombe de lui prendre comme exemple. Son exemple à lui en tant que bienfaiteur de l'humanité et qu'il a oublié ses propres souffrances pour servir l'humanité. De servir l'humanité, pas pour attendre des récompenses en retour, mais de le faire comme une ihsan, comme une faveur, de le faire par amour, d'être animé de ces sentiments que l'on ressent à l'égard de ses proches parents lorsqu'on sert ses concitoyens, car nos concitoyens sont nos proches. Même si les autres souffrent, les gens de bonne nature souffrent. Ces personnes sont les membres de notre famille. Et lorsque nous les voyons souffrir, comment ne pas en être anxieux? L'orgueil, l'arrogance et ces agitations nous sont inconnues. Nous sommes là pour partager l'amour et l'humilité. Nous sommes les suivants de ce prophète qui souffrait de voir l'humanité loin de Dieu. Il avait peur, attention, que l'humanité ne s'attire la colère de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il passait ses nuits en prière et dans la tristesse, parce que les hommes ont oublié Dieu et sont au fond d'un gouffre de la destruction. C'est pour cette raison que Dieu s'est adressé à lui en disant « La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin » Il se peut que tu te désoles à en mourir parce qu'il ne croit pas. En étant dans cette Oumma, nous ressentons de la sympathie pour les suivants du saint prophète Mohammed B. S.A.W. Nous ressentons cette douleur et nous faisons des efforts afin qu'ils comprennent le message véritable du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils puissent accepter le Messie promis, afin qu'ils puissent se protéger du courroux de Dieu sur terre et afin qu'ils puissent se protéger de la colère de Dieu dans l'au-delà. Depuis plusieurs années, de temps en temps, dans mes sermons, dans mes discours, j'ai évoqué le fait que depuis les 100 dernières années, des calamités naturelles, des tremblements de terre et des tempêtes ont pris de l'ampleur. Tout cela est un signe de soutien en faveur de l'envoyé de Dieu. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que Dieu l'a informé que ces calamités naturelles, ces tremblements de terre vont venir soutenir sa déclaration. On a vu cela au cours de sa vie et cette période de soutien de Dieu dure jusqu'à présent. Les pertes qui ont été subies dans le monde et au Pakistan sont tout à fait évidentes. Selon un rapport des Nations Unies et selon le secrétaire des Nations Unies lui-même, il est dit que cette inondation au Pakistan a causé plus de dégâts que plusieurs tsunamis. Tout Ahmadi sait très bien que ces calamités naturelles que nous sommes en train de voir aujourd'hui sont en train de soutenir la déclaration du Messie promis. Si seulement le monde pouvait comprendre cela. Ces calamités et châtiments qui frappent le monde nous rendent anxieux. Car si le monde ne comprend pas ces signes divins, il y aura des destructions encore plus grandes. Et en raison de cette anxiété, nous nous tournons vers Dieu, notre Créateur. Nous nous tournons vers notre Allah, lui qui a toujours envoyé ses prophètes afin que le monde puisse se réformer. Lui qui a toujours envoyé ses prophètes afin de sauver le monde. Dans les journaux pakistanais et dans les médias, partout, ils se demandent si c'est là un châtiment de la part de Dieu ou pas. Et leur guide religieux de répondre que ce ne peut pas être un châtiment, car un châtiment est tout le temps accompagné d'un prophète de Dieu. Pour la cause de Dieu, nous leur demandons de nous écouter, d'écouter ce qu'a à dire le Messie promis. Depuis les 100 dernières années, le message du Messie est en train de vous interpeller. Chaque calamité qui frappe le monde nous rend plus anxieux. Il se peut que cette calamité soit l'avant-coureur d'une plus grande calamité. Lorsque frappent ces calamités, la Jamaat Ahmadiyya se met tout le temps au service de la nation. Suite à cette inondation, la communauté Ahmadiyya a remis des dons en espèces aux ambassades pakistanaises dans plusieurs pays du monde. Individuellement aussi et collectivement, les Ahmadis ont agi en ce sens. Et à l'intérieur du pays, les nantis ont offert leur aide financière. Ils ont offert aussi des vivres et nos volontaires aussi ont travaillé pour mettre les gens à l'abri, pour offrir des vivres. À une occasion, notre équipe est entrée en contact avec M. Idi, qui est responsable d'une grande ONG. En le rencontrant, M. Idi leur a dit que j'ai constaté que les Kadianis sont toujours en premier à offrir leur aide. Nos équipes de volontaires ont fait sortir les membres de la communauté dans ces endroits et ils ont aussi aidé les autres sans distinction de croyance et d'obédience. On est en train d'aider les autres par l'entremise de Humanity First et maintenant cette ONG a récolté 1 million de dollars pour aider les sinistrés, afin d'aider les sinistrés à se remettre sur pied. Et cette ONG est en train de le faire sans distinction. Et nous allons continuer à le faire. Et nous ne disons pas non plus que nous sommes des Ahmadis. On est en train de les aider silencieusement. Attention que l'on attire l'attention d'un fauteur de troubles qui viendra semer la zizanie et qui viendra priver les pauvres de ses aides. Mais quel est le comportement de ces soi-disant protecteurs de l'islam? Comment se comportent-ils, ces personnes? Certaines familles Ahmadis ont été sinistrées dans un endroit très reculé, dans la région de Dera Ghazi Khan en particulier. Lorsque ces familles sont sorties de là-bas, ils sont partis voir les responsables qui ne leur ont pas donné de vivres. De toute façon, nous avions déjà pris nos dispositions pour cela, mais en tout cas, ils ont fait sortir ces familles Ahmadis de l'école où ils avaient trouvé refuge. Ils ont dit que ce sont des Kadianis et ils ne peuvent trouver refuge dans cette école. En tout cas, par la grâce d'Allah, la communauté Ahmadiyya s'est occupée de tout Ahmadi et Allah n'abandonne jamais la Jamaat. Allah n'abandonne pas les Ahmadis. On s'est occupé de ces Ahmadis, mais on a aussi su, par cet incident, la nature perverse de ces personnes, ceux qui se disent être les représentants de l'islam. Ils sont en train de commettre ces actions au nom de Dieu et au nom de son prophète. Cette calamité, cette inondation a frappé le pays après les incidents de Lahore, après ces actes barbares commis dans ces mosquées Ahmadis. Et sous un angle, l'on connaîtra aussi la noblesse de caractère des Ahmadis. Après avoir subi toutes ces atrocités, la communauté Ahmadiyya s'est présentée pour servir les populations sinistrées et l'on comprend ainsi la noblesse de caractère des Ahmadis. Après ces incidents à Lahore, alors que la dépouille de certains martyrs n'était même pas encore sortie de leur maison, certains voisins non-Ahmadis ont commencé à distribuer des sucreries en disant qu'on doit se féliciter pour la mort des Ahmadis. Peut-on trouver un exemple plus flagrant de faillite morale et religieuse? Une faillite morale qui a été causée par les soi-disant représentants religieux. Ils les ont poussés vers la faillite morale. Et dans certains endroits, des enfants non-Ahmadis ont dit aux enfants Ahmadis, que l'on doit les jeter dans des caniveaux, c'est le seul endroit où ils méritent de vivre. Et c'est pour cette raison que certaines familles Ahmadi ont dû quitter certains lieux et changer de demeure. Face à cette situation, la noblesse de caractère des Ahmadis n'a fait que briller davantage. Lorsque la communauté Ahmadiyya offre des vivres, des médicaments, des matériaux de construction, lorsque la communauté Ahmadiyya offre ses services, elle le fait sans distinction. Elle ne regarde pas qui est hostile envers elle. La communauté Ahmadiyya est là pour aider tout le monde. Voilà l'image de l'islam véritable que présente la communauté Ahmadiyya. Voilà comment suivre les préceptes du saint prophète. La communauté Ahmadiyya est en train de suivre ce précepte que prier lorsqu'on entend des insultes, d'aider les autres lorsqu'on est en train de souffrir soi-même. La communauté Ahmadiyya est en train d'agir ainsi pour la cause de Dieu. Cette hostilité envers la communauté Ahmadiyya n'existe pas uniquement au Pakistan. Dans toute partie du monde, lorsqu'on persécute les Ahmadis, la communauté Ahmadiyya fait toujours preuve de noblesse. Récemment, en Indonésie, on a incendié une mosquée de la communauté Ahmadiyya et 5 ou 6 maisons des Ahmadis et quelques voitures ou des motocyclettes. Mais lorsque cette région a été frappée d'une tempête, la communauté Ahmadiyya s'est présentée pour les aider. En Indonésie, tout au moins, il y a cette noblesse de caractère parmi les intellectuels et parmi les politiciens. Ce sont des personnes braves et ces personnes ont condamné ces actes. Même l'épouse de l'ex-président, M. Abdul Wahid, est partie visiter les familles qui ont été touchées. Si seulement les leaders pakistanais pouvaient ouvrir leurs yeux et s'ils pouvaient faire preuve de civilité. En tout cas, les Ahmadis vont faire des efforts pour sauver le monde de la destruction et pour transmettre le message de l'imam de l'époque. Nous allons continuer à faire des efforts en priant. Et aucun tyran ne pourra enlever cette noblesse de caractère qui est en nous. Nos prières seront, Inch'Allah, exaucées. Et ainsi, tous ces tyrans et cette tyrannie vont disparaître. Nous devons, quant à nous, tout le temps prier pour qu'Allah enlève tous ces tyrans qui sont sur la terre. Qu'Allah protège le monde entier de cette tyrannie et de ces tyrans. Quant à nous, nous n'allons pas nous battre pour avoir nos droits. Nous n'allons pas créer des agitations pour avoir nos droits. On nous persécute en raison de notre foi et pas pour d'autres raisons. Et l'imam de l'époque que nous avons accepté nous a empêchés de nous battre pour notre foi. La prière est notre seule arme. C'est une arme des plus efficaces grâce auxquelles nous aurons, Inch'Allah, la victoire. Notre but et objectif, c'est le plaisir de Dieu. Et pour cela, nous allons devoir accomplir des actes méritoires. L'on ne pourra pas atteindre cet objectif en créant des agitations. L'on ne pourra pas atteindre cet objectif en étant orgueilleux non plus. Et à ce sujet, Allah déclare « Tilka darul akhiratu نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Ceci est la demeure de l'au-delà, nous l'accordons à ceux qui ne désirent ni la gloire sur la terre, à ces personnes qui ne désirent pas non plus la corruption. Nous annonçons que nous sommes de ceux qui ont la certitude quant à l'au-delà. Donc, comment pourrons-nous faire preuve d'orgueil? Comment pourrons-nous créer des agitations sur terre? Comment pouvons-nous prendre la loi entre nous-mêmes? Comment pouvons-nous refuser d'aider l'humanité? Comment pouvons-nous humilier les autres? Tout cela va à l'encontre de la taqwa, et le but du croyant, c'est la taqwa. Car Allah déclare et promet « Wal aqibatu lil muttaqin » La fin, la victoire appartient aux muttaqi. La fin, la victoire n'appartient pas aux fauteurs de troubles. Tout suivant de religion qui a été persécuté a cru qu'il sera anéanti face à cette persécution qui a pris de l'ampleur. Des fois, lorsque ces épreuves ont perduré, certains se sont dit qu'ils doivent eux aussi avoir recours aux machinations et aux subterfuges. Mais les communautés divines n'agissent pas ainsi. Certaines personnes m'écrivent à ce sujet en disant que ce n'est pas la peine d'être patient à tel point. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas pour but de créer des agitations. Nous avons accepté l'imam de l'époque et pour cela, nous allons devoir suivre ses directives. Et de toute façon, ces complots et ces ruses sont contraires à la nature des vertus. Même si nous faisons ces efforts, cela va aller à l'encontre de notre nature. Autour de la ville de Rabwa, il y a plusieurs villages. Et les gens de ces villages considèrent les habitants de Rabwa comme des émigrants. La population locale est très connu pour ses larcins et pour les vols et autres actes de brigandage. Et au tout début, on a dû prendre des mesures très strictes pour protéger Rabwa. L'un des habitants de ces villages avait dit à l'époque qu'ils étaient très connus pour leur larcin, pour leur vol. Il a dit que nous sommes très habiles dans ce domaine et vous ne pourrez pas vous mesurer à nous. Là où se termine votre intelligence à vous, débute notre imbécilité à nous. Nous sommes si habiles que les plus intelligents parmi vous ne pourront pas se mesurer aux plus sots qui sont parmi nous. Donc nous ne pourrons pas nous mesurer à de telles personnes. Nous ne pourrons pas nous mesurer aux plus sots parmi eux dans la réalisation de ces délits. Certaines personnes parmi elles sont en train d'accepter l'Ahmadiyya et l'on constate aussi qu'elles sont en train de se réformer. Eux qui étaient si habiles dans ces délits se sont réformés. Ensuite, nous avons la certitude quant à l'existence de Dieu et quant à ses promesses. Il a dit que la fin appartient aux muttaqi. Un des sens de cela est qu'en fin de compte, on va devoir se présenter à Dieu et vous ne pourrez pas vous faire valoir par vos ruses, par vos complots, par vos subterfuges. Vous serez certainement questionné à propos de la taqwa. Car c'est la taqwa qui mènera à Dieu. Tout comme il a dit, yanalahu taqwa minkum. C'est votre taqwa qui vous mènera à lui. Et c'est grâce à la taqwa que vous serez pardonné. Qu'Allah fasse que nous puissions progresser dans ce domaine. Ensuite, le terme « Aqibatul Muttaqin » signifie que la victoire des communautés divines ne se fera pas par des machinations, en étant orgueilleux ou en humiliant les autres. Cette victoire se fera grâce à l'humilité, grâce au fait qu'on va chercher à voir le plaisir de Dieu dans chaque situation. Voilà les gens qui remporteront la victoire. Cette persécution, cette oppression, tout cela est temporaire et tout cela va rapidement arriver à sa fin. Il y a eu dans le monde de grands pharaons, il y a eu dans le monde de grands tyrans, mais ils ont tous disparu. Ceux qui s'opposent aux communautés divines savent très bien qu'un jour, ces communautés mettront fin à leur suprématie. Comme je l'ai dit auparavant, puisque ces personnes ne sont intéressées que par les affaires de ce bas monde, c'est pour cette raison que leur pensée ne va pas plus loin. Ils ont peur de perdre leur suprématie. Alors que les communautés divines sont là pour lier les hommes avec Dieu. Voilà le but pour lequel le Messie promis alayhi salam est venu. Le Messie promis alayhi salam est venu accomplir cette tâche et ces tyrans ont fait de leur pouvoir un dieu qu'ils ont présenté à leur peuple. Et ils ont peur que leur peuple ne se tourne vers le Dieu véritable. Et ainsi, ils perdront leur pouvoir sur leur peuple. En voyant ces signes, ils ont la certitude qu'un jour, ces communautés divines et ces prophètes remporteront la victoire. Ils ont cette certitude et c'est pour cette raison que leur hostilité s'amplifie davantage. Ils agissent ainsi afin de mettre fin à la mission de ce prophète. Des fois, ils qualifient le prophète de sorcier, des fois, ils usent d'autres subterfuges. En voyant le progrès accompli par le prophète, ou en voyant le progrès des communautés divines, ces pharisiens savent très bien que leurs chairs sont en danger. C'est pour cette raison qu'ils s'opposent contre ces prophètes et leurs communautés, et c'est pour cette raison qu'ils ont recours à la violence. Ils mentent à tel point que les gens n'arrivent plus à faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Au nom de la religion, ils font couler le sang afin de préserver leur chair. Cette hostilité résulte de leur crainte, parce qu'ils savent très bien que ces gens auront la victoire. Lorsque ces États ou ces soi-disant religieux propriétaires de ces chairs voient qu'ils sont sur le point de perdre leur pouvoir, leurs chaises et leurs chairs, ils s'opposent davantage aux communautés divines. Et ils font fi de toutes les lois et de toute civilité.
Si
S'ils n'avaient pas la certitude quant à la victoire des communautés divines, pourquoi auraient-ils lancé cette campagne d'hostilité aussi bien organisée? Lorsqu'il y aura une campagne d'hostilité organisée, ce sera là une certitude que ces gens savent que tôt ou tard, ils vont partir. Dans leur réunion, ils disent que certainement l'action de Dieu est en faveur des Ahmadis. C'est là une vérité. Et dans ces pays où les gouvernants et les responsables religieux sont en train de se concerter pour freiner l'avancée de l'Ahmadiyya, ils disent que si nous laissons ces paroles tomber dans l'oreille de la masse et si nous laissons progresser cette communauté, si nous laissons leurs paroles atteindre les oreilles de la masse sans les arrêter, nous allons certainement perdre nos chaises et nos imams vont perdre leur imam. Mais Dieu a déjà déclaré que ceux qui s'opposent au prophète atteignent en fin de compte une fin ignoble. Leur hostilité, leur agitation, leur persécution, leur pouvoir, leur richesse, leur orgueil n'ont pas pu les protéger de cette fin ignoble. Et à l'avenir non plus, ceux qui s'opposent aux prophètes ne pourront pas se protéger derrière ces actions. Des calamités sont en train de frapper le monde et les ennemis de la communauté divine pensent qu'ils sont à l'abri. Mais ils ne sont pas à l'abri. Allah déclare dans le Saint-Coran Istikbaran fil ard wa makara sayy wa la yahiqu al makru sayyu illa bi ahli fa hal yanzuruna illa sunnat al awwalin fa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. À cause de leur orgueil sur la terre, à cause de leur machination perfide. Mais les machinations n'enveloppent nul autre que leurs auteurs. Est-ce donc qu'ils s'attendent à autre chose qu'un traitement d'Allah? S'attendent-ils autre chose qu'au traitement qu'Allah a infligé au peuple longtemps? Mais jamais tu ne trouveras quelque changement de la pratique d'Allah, jamais tu ne trouveras non plus de variation de la pratique d'Allah. Cet orgueil, ces machinations serviront-ils à quelque chose contre le plan d'Allah? Certainement non. Il n'y a pas de changement de la pratique de Dieu. Voilà ce qu'annonce Dieu. Ces faits concernant les prophètes d'antan ne sont pas des légendes qui ont été consignées dans le Saint-Coran. Tout cela a été mentionné afin que vous puissiez en tirer des leçons. Afin que vous ayez en vous la crainte de Dieu, afin que vous ne vous opposiez pas aux prophètes de Dieu, afin que vous ne commettiez pas ces actes abominables contre leurs suivants. Méditez sur ces paroles. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jamais tu ne trouveras quelque changement dans la pratique d'Allah et jamais tu ne trouveras non plus de variation de la pratique d'Allah. Si seulement vous pouviez comprendre cela. Qu'Allah nous donne la possibilité à nous de prier et que nos prières soient exaucées par Dieu en faveur du monde, afin que le monde soit sauvé de la destruction. Priez pour vous-même. Priez pour que nous puissions faire preuve de patience et que nous soyons de ceux qui puissent témoigner de la victoire et de l'accomplissement de cette parole. À la fin, je vais citer le Messie premier, l'Islam, qui déclare « Sachez très bien que Dieu n'abandonnera pas cette communauté. » Il déclare lui-même qu'un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas reconnu et Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véridicité par de terribles assauts. L'humiliation est destinée à ceux qui ont rejeté cette communauté. Ils ne comprennent pas que si c'était une fabrication de l'homme, Dieu l'aurait détruit, car Dieu est le plus grand ennemi des imposteurs. Ces sots ne comprennent pas qu'un fier menteur ne peut pas être patient et persévérant. Et ils ne comprennent pas que les paroles de cette personne qui parle sous la protection de l'invisible sont ardentes. Et cette personne a le courage de s'opposer au monde. Sachez que ce jour est proche lorsque l'ennemi sera humilié et lorsque les amis seront en pleine joie. Qui sont les amis? Les amis sont ceux qui m'ont accepté avant d'avoir vu des signes et qui ont sacrifié leur vie, leur bien et leur honneur comme s'ils ont vu des milliers de signes. Voilà ceux qui m'ont accepté. Ils m'ont aidé alors que j'étais seul. Ils m'ont vu triste et ont partagé ma tristesse et m'ont reconnu alors qu'ils ne me connaissaient pas. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Si quelqu'un me reconnaît après avoir vu des signes, il sera honoré par Dieu. Ceux qui m'ont accepté sont ceux qui m'ont regardé minutieusement, ceux qui ont médité sur mes paroles avec perspicacité, et ceux qui ont écouté mes paroles et qui ont réfléchi sur mes paroles. Et c'est là que Dieu leur a ouvert le cœur, et c'est pour cette raison que ces personnes sont venues avec moi. Ceux qui sont en ma compagnie sont ceux qui ont abandonné leurs égaux, et ceux qui marchent sur la voie que j'ai tracée, et ceux qui se sont débarrassés de leurs égaux et me sont obéissants. Mais je dois dire que ceux qui veulent des signes ne vont pas mériter ces honneurs qu'ont reçus ces personnes qui m'ont reconnu dans le secret. Voilà les véritables vertueux. Ils ont eu vent du parfum du serviteur de Dieu qui était caché sous les draps de Dieu. Voilà les véritables mérites. Sinon, il n'y a pas de mérite. Les soldats vont certainement saluer leur roi qui est au fait de sa gloire. Mais celui qui mérite honneur est celui qui reconnaît l'envoyé de Dieu qui porte les vêtements de la pauvreté. Ce n'est pas à moi de décerner ces honneurs. Ces honneurs seront décernés par Dieu. Et c'est Dieu qui accorde cette perspicacité. Dieu les guidera par ces mêmes choses, mais ces paroles vont accroître la perversité de ceux dont le cœur est pervers. Qu'Allah renforce notre foi et qu'il ouvre les yeux de l'humanité. Amin.